Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Ok. Salut Junior.
Salut Bart, ça va?
Ça va et toi?
Ça va bien.
Ouais. C'est comme ça que tes potes t'appellent, Junior?
Oui, c'est comme ça que mes potes m'appellent et c'est aussi comme ça que mes parents m'ont appelé. Ouais, c'est ouais. Mon vrai prénom, Junior.
Ouais. Ok, c'est tes parents adoptifs ou tes parents aux Aïres?
Non, mes parents biologiques.
Oui, tes parents biologiques, quoi.
Qui m'ont nommé Junior. Mais Junior, c'est un prénom assez courant aussi au Congo. Donc,
ouais. Ok. Bon, on va reparler un peu, mais écoute, je suis méga content d'être là aujourd'hui. Franchement, ce matin, je me suis levé, j'avais la banane. J'étais trop content de te rencontrer parce que je me suis souvenu de ce moment, je pense que je devais avoir 17-18 ans, où je t'ai vu la première fois à la télé. Je t'ai vu danser sur ce show incroyable qui était un incroyable talent. Et je t'ai vu danser et j'ai fait « Waouh, ce mec, il a un talent de ouf, il a une pêche de ouf, il transmet une énergie de ouf. Et je me souviens, le présentateur, il avait dit un truc sur toi, genre vous êtes un malade ou vous...
C'était pas le présentateur, c'était Patrick Dupont, ouais. Paix à son âme, qui m'avait boosté en disant alors toi t'es incroyable. Et je m'en souviens encore aujourd'hui, et ouais, c'est un moment très marquant et très motivant.
Ouais,
venant d'une personne comme lui.
Ouais, exactement, c'était un personnage marquant et qui a... Et moi, ouais, je me souviens de ton show et je me souviens de cette fois-là, et j'avais vraiment kiffé. Tu m'avais vraiment transporté.
Je peux en déduire que t'as 31 ans.
Exactement, ouais, exactement.
Parce que ça fait 12-13 ans quand même. Ouais.
Ouais, exactement. C'est quoi? C'est 2007?
Ouais, 2007.
Ouais, bah c'est ça, 14
ans, ouais.
J'avais, waouh, le temps passe vite, hein. et j'imagine, tu vois, je me suis dit, mais en revoyant les images là, récemment, je me suis dit, mais ouais, t'as dû donner tellement d'énergie à des gamins, de leur donner envie de se lancer, leur donner envie d'essayer, tu vois. C'était ouf, quoi. Je sais pas si t'as rencontré aujourd'hui des jeunes ou des gens que vraiment t'as inspiré, je pense.
Ça, c'est ce que j'appelle une de mes rémunérations, on va dire, que des gens me disent que j'ai apporté dans leur vie, il y en a même qui m'ont dit que j'ai changé leur vie. C'est quelque chose de, ça n'a pas de prix, c'est boostant, et tu te rends compte que voilà, ta passion, elle te dépasse, et au final ce que tu fais, ça booste des personnes, et ça te donne envie de continuer, ça te donne envie de donner le meilleur de toi-même et d'être encore meilleur et de booster encore plus de personnes au fil du temps, quoi.
Ouais. Tu dis que c'est une rémunération, c'est parce que ça te nourrit?
Ça me nourrit et ça continue à me construire, ça m'inspire. L'inspiration qui dit ce que j'ai pu leur apporter, rien qu'à me disant ça, moi ça me rebooste, et je me dis, tu vois, c'est pas des conneries ce que je fais. Des fois je fais ça avec ma femme, je plaisante, s'il y a quelqu'un qui vient me dire dans la rue et que je suis avec elle et qui me dit ouais, c'est fort ce que tu fais, c'est là, je la regarde, je dis alors tu vois que c'est pas de la merde ce que je fais, et elle sort toujours mal et on en rigole.
C'est vrai?
Ouais.
Pourquoi? Parce que ta femme, elle dit que c'est de la merde ce que tu fais?
Non, bien sûr que non, parce que c'est là ma première fan, on va dire, parce que elle est toujours là motivée, on travaille ensemble aussi, et ouais. Donc elle est là à voir comment je peux encore améliorer ne serait-ce que ma communication, mon administration, et c'est mon garde-fou, et c'est elle aussi qui me permet d'avoir une meilleure version de moi-même, je trouve, par rapport à mon métier et dans la vie tout court, donc ouais.
Mais c'est trop beau que tu dises ça, parce que c'est vraiment important d'avoir un compagnon ou une compagne
qui te comprend,
ouais, qui te comprend et sur qui tu peux t'appuyer. Ouais. Ça fait combien de temps que vous...
Ça fait 12 ans qu'on est ensemble, et ça fait peut-être 5 ans 6 ans qu'on travaille ensemble. Oui.
Ok, d'accord. Ok. Et elle gère du coup tout ce que toi tu veux pas faire.
C'est même pas ce que je veux pas faire. C'est y a le temps, parce que faut que je me concentre aussi sur tout ce qui est création, sur tout ce qui est que je reste en forme, que je prépare mes spectacles, que j'aille au rendez-vous aussi. C'est le dessous de l'iceberg, mais il y a beaucoup de travail qui est fait aussi. Donc,
Bien sûr. Tu peux pas te concentrer à la fois sur la création, le côté aussi athlétique. Je pense que faut s'entraîner énormément.
Oui.
Et en même temps, l'administratif, la communication, le business aussi.
C'est aussi un travail d'équipe. Donc après, si chacun excelle dans son domaine, dans son univers, ça fait que cette synergie, elle a quand même lieu. Et au final, chacun apporte de son savoir, de ses capacités à son niveau. Et après, c'est clair qu'on échange. C'est aussi à base de communication, à base d'entraide. Si moi, je peux faire des choses pour l'aider dans l'administration, je vais faire aussi. C'est vraiment histoire de temps, optimiser le temps.
c'est quelque chose d'important pour toi d'optimiser le temps?
Oui, c'est très important. On se rend compte que les journées de 24 heures, au final, c'est pas assez. Hein, qu'on aurait dû inventer des journées de 48 ou je sais pas. Mais surtout quand t'es passionné que t'es qu'il y a beaucoup de choses, ben j'ai la chance de pouvoir voyager entre différents univers, que ce soit dans le milieu des compétitions, dans les milieux des la transmission par rapport à la danse, dans la création, dans les théâtres et tout ça, ce qui fait que et dans l'humanitaire aussi, ce qui fait qu'il y a pas mal de choses à faire.
Ouais, il y a du boulot, il y a du boulot. Non mais c'est cool parce que moi de l'extérieur, j'ai l'impression que tu t'engages énormément et que tu es encore sur le devant de la scène, que tu fais beaucoup de choses, beaucoup de projets artistiques. Mm-hmm. C'était une des questions que j'avais pour toi d'ailleurs parce que moi je te vois sur des compètes, tu fais des jurys, il y a des publicités, il y a Junior l'artiste, le danseur, le metteur en scène aussi, t'as mis en scène
chorégraphe,
ouais. T'as aussi t'as enseigné aussi. T'es plus ou moins professeur ou...
Oui, je suis amené à voyager pas mal pour donner ce qu'on appelle des workshops, ouais. Le break aussi, ou même des conférences ou des stages des camps aussi, ouais. Voilà, des fois je me retrouve par exemple en Pologne pendant 5 jours et on donne des cours à des écoles, quoi, voilà.
OK, ouais. Trop cool. Ouais, c'est rémunéré, c'est
oui, mais c'est mon métier en fait.
Ouais, donc tu dois jongler vraiment entre la partie entre plein de métiers différents, j'ai l'impression, quand je te regarde.
Et à côté de ça, maintenant, je suis aussi dans tout ce qui est de l'image, de l'ordre de l'image et des partenaires avec qui, les réseaux sociaux avec lesquels je communique, pour lesquels je communique. Je suis ambassadeur aussi de certaines marques et aussi de certaines écoles, notamment la FIS Academy by Case.
Okay.
Et aussi le lycée Turgot. Donc, et j'ai des choses.
Il y a beaucoup de choses à faire.
Pas mal.
Ouais. Ça me met l'eau à la bouche. On va pouvoir parler de plein de trucs super chouettes aujourd'hui. On a déjà commencé, mais normalement, je commence toujours avec une question traditionnelle.
D'accord.
C'est la même que je pose à tous les athlètes, même si demain je rencontre Tony Parker, Teddy Riner. Ils auront tous la même question. C'est quel est ton premier souvenir de sport?
Mon premier souvenir de sport. Ouais, c'est chelou, hein, mais je pense que c'était en primaire et on avait fait, de l'escrime. Et j'étais arrivé deuxième de ma poule. Et c'est quelque chose qui m'était marqué. Je disais, j'étais fort, je suis deuxième de ma poule. C'est quand j'ai fait de l'escrime en primaire.
Ok, d'accord. comment tu t'es retrouvé dans l'escrime?
À l'école.
À l'école. Okay.
En sport, quoi, en cours de sport.
Ok. Voilà. Et pourquoi t'as pas continué?
Ou c'était comme ça parce que aussi j'avais d'autres intérêts à cet âge-là. J'aimais bien la gymnastique déjà. Ouais. J'aimais bien la capoeira et au final en rencontrant le break, ça alliait un peu à tous mes hobbies, à tous mes centres d'intérêt qui étaient justement les arts martiaux, la gymnastique, la musique, la danse et tout ça c'était dans le breaking.
OK. Et tu te souviens la première fois que t'es rentré dans une salle de break ou la première fois que t'as fait du break?
Oui, je m'en souviens. C'était à Saint-Malo, à la salle du Goéland, qui était notre maison de quartier. Et en fait, moi, je pratiquais de mon côté, après avoir vu des clips ou des choses, on essayait d'imiter et tout. Et j'avais aussi certaines capacités, et ce qui fait que dès qu'il y avait une soirée étudiante ou dès qu'il y avait même des fêtes de famille, j'étais là pour faire une démo, ce qui fait que j'avais des petites accros, des petits trucs, mais rien de vraiment qui appartenait vraiment au breaking. Et une fois il y a des jeunes du quartier, on les voit, ils me volent la vedette, en fait ils font des pas vraiment carrés, prof et tout ça, et je leur demande, où est-ce que vous avez appris ça, en fait? Ils nous disent, il y a deux jeunes là qui venaient eux de Dinan, mais qui avaient la l'occasion de voyager pas mal sur Paris et tout, et ils avaient pris des cours et voilà, ils sont venus nous donner un peu les rudiments du breaking, et je me suis incrusté dans leur salle, et voilà, c'est là que je me suis retrouvé avec une dizaine de personnes qui partageaient la même passion que moi à Saint-Malo, quoi. C'était pas le sport régional non plus, et au final voilà, c'est là-bas que j'ai rencontré Jeff et Rudy, qui ont été mes mentors, avec qui par la suite j'ai écumé les scènes bretonnes, les festivals et tout, et Transmusical de Rennes, on a fait des premières parties de Gangsta, de Gourou, de La Soul, et c'était juste magnifique. Wow,
de La Soul aussi.
Ouais.
Ah, c'est ouf, c'est ouf. Mm. Et c'est dingue. Et tu vois, bon, on n'a pas abordé le sujet, mais c'est vrai que t'as eu une maladie jeune, et du coup t'as un comment tu définis, c'est une faiblesse sur la jambe?
Oui, j'ai contracté la poliomyélite vers l'âge de 2-3 ans, je ne sais pas exactement quand, mais voilà, c'est une maladie qui a attaqué mes muscles, du moins la partie droite inférieure, ma jambe droite du moins, tout simplement, ma jambe droite qui est atrophiée, et voilà, et je ne peux pas tenir plus d'une seconde et demie. Si je me concentre bien, je peux faire 2 secondes sur cette jambe.
Et c'est... Tu t'es jamais senti discriminé dans le sport ou à l'école? T'as toujours essayé de faire comme j'ai pas envie de parler d'enfant valide, parce que c'est honte, enfin t'es méga valide, tu vois, en vrai, quand je vois ce que tu fais, mais même si tu as une forme de handicap, ouais, tu t'es jamais senti à l'écart, t'as toujours essayé de faire comme les autres?
Ouais, on va dire c'est comme si au final je me rendais même pas compte que je pouvais pas faire des choses. C'était j'avais un voile qui était devant mes yeux qui s'appelle peut-être la passion, et au final je faisais les choses, comme je disais, j'aimais tout ce qui était le sport, la musique, la danse, donc je faisais danser ma vie, et je m'en foutais de ce qui se passait à côté, parce qu'il y avait la musique, quoi, il y avait ce goût aussi de... J'ai eu très tôt cette envie de montrer que j'étais capable, en fait, aussi, sans vraiment me diminuer, ou sans sentir de barrière, vraiment. J'ai pas senti de barrière, parce que j'ai toujours eu aussi pas mal de potes, j'ai été assez populaire, assez tôt à l'école, j'étais un peu la mascotte, voilà, et au final tout cet amour, cette amitié que j'avais autour de moi, ben ça m'a empêché de me sentir amoindri ou autre, et voilà, je faisais les choses, j'ai toujours fait les choses comme si j'étais valide.
Ouais.
Et en tout cas, j'étais validé.
C'est beau comment tu le dis, parce que c'est vrai que, tu vois, en regardant un peu des interviews, des documentaires sur toi, tout le monde, enfin, il y a quelque chose qui revient tout le temps, c'est Junior, c'est la gentillesse et la bonté incarnée. ils disent tous ça de toi, tu vois, et je le confirme, tu vois, là aussi, en te rencontrant. Et,
ah, merci.
Et je pense que ça joue beaucoup, en fait, finalement, qui tu es pour se faire accepter dans une communauté, et les gens, finalement, les gens considèrent beaucoup plus ce qu'il y a à l'intérieur de toi que l'image que tu peux dégager, quoi.
Oui, ben ça s'applique à la vie totalement. Oui. Hein, c'est bien de ne pas juger juste la couverture, et c'est aussi un message que je fais valoir dans mes spectacles ou même dans mon parcours. Chacun a du potentiel, chacun est unique, chacun a cette force en soi, en lui, en elle, pour atteindre des objectifs, réaliser des rêves, les vivre déjà, et
ça ressemble à quoi le hip-hop dans les années fin des années 90, que toi c'est à peu près à ce moment-là que tu commences?
Ouais, milieu 90, on va dire, ouais, j'ai commencé 94-95.
Ouais, ça ressemble à quoi la culture hip-hop en France, le breakdance? Le breakdance arrive aux Jeux Olympiques.
Voilà,
c'est incroyable.
C'est une culture, un sport qui a fait du chemin malgré le peu d'années que c'est pratiqué ou du moins que c'est démocratisé. Oui, à mon époque, c'était vraiment marginalisé parce que, comme je dis, en plus, c'était pas le sport régional en Bretagne. Alors, pour continuer, on n'avait pas, comment dire, les salles à disposition. On connaissait pas tout ce qui était justement monter une association pour avoir l'aide des collectivités locales ou autres. Et non, c'était pas aussi populaire quoi aussi. Et on était beaucoup moins de pratiquants. Et il n'y avait pas les réseaux sociaux, on savait pas, ouais. On n'avait pas les informations. On se partageait les cassettes VHS et il y en avait carrément, ils arrivaient à couper des bouts pour pas que tu vois certains passages. Et comme ça, ils gardaient les faces pour eux et tout. Et donc, c'était vraiment... c'était des pépites. Chaque moment que tu pouvais avoir à partager avec des membres de la culture, ben c'était des moments précieux. Il y a un événement, les gens ils faisaient des voyages pour participer à un événement quoi. C'était même pas pour être rémunéré pour faire cet événement. Ils ouais. payaient de leur poche, ils allaient, ils savaient qu'ils allaient pas forcément gagner, mais ils venaient. Non, c'était ben la passion qui était vraiment là, c'était ouais, c'était le seul moteur.
Et je me rends pas compte, mais moitié des années 90, est-ce qu'il y a déjà des premières compétitions? Est-ce que c'est quoi les sources d'inspiration? Parce que moi, j'ai l'impression que le breakdance est né à New York ou en tout cas aux États-Unis. Comme tu l'as dit, il y a pas les réseaux sociaux, il y a pas forcément de reportages. C'est ouais, comment est-ce que tu t'inspires toi à l'époque? Et est-ce que ouais, il y a un peu de structure quand même, tu vois, en France? Parce que en France, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est devenu une des nations du hip-hop, tu vois.
Exactement. Mais exactement. On va dire que la France depuis 90, ça a été une des cinq nations, on va dire principales de la culture hip-hop.
En général, ouais.
En général, ouais, c'est maintenant, on va dire, presque 1 million de personnes qui pratiquent différents styles de la danse hip-hop, quoi, en gros. Il y a tellement de styles aussi et tellement de possibilités que chacun peut se trouver dans son style, dans sa danse, dans son énergie, par rapport à son corps, par rapport à son histoire, par rapport à quel objectif il veut atteindre physiquement parlant. Et non, c'est la France, ouais, c'est la France. La source d'inspiration à cette époque, c'était vraiment, comme je disais, des cassettes. Il y avait quelques petits événements à l'époque. Moi, mon premier battle auquel j'ai participé, c'était le Braze Battle à Rennes, voilà, et 96. Donc, il y avait eu déjà des éditions avant, et bah, c'était la première fois que je me retrouvais dans une salle avec 300, 400 personnes qui partageaient la même passion. Il y avait des Parisiens qui étaient venus et c'est là que je me suis fait repérer plus ou moins par des danseurs de renommée nationale et internationale, ouais.
Okay. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là?
Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait eu on n'avait même pas gagné le battle, mais il y avait eu un moment, une petite aparté qui faisait que ils avaient fait un système qui était le DJ contre un danseur. Et en fait, tu devais te défier contre le DJ qui allait mettre les sons qu'il voulait. Et voilà, j'ai fait quelque chose d'assez fou. J'ai dansé, je répondais à ses improvisations. Et à un moment, je suis monté sur les platines en équilibre, j'ai sauté. Et tout le monde se rappelait de ça et tout. Et comment dire, bah, il y a Malika qui était une danseuse de Family déjà à l'époque, okay. Qui était un groupe de renommée internationale déjà, ouais. Et qui me demandait, ouais, mais t'as pas un agent et tout? J'entends agent, c'est quoi? À cette époque, je savais même pas qu'on pouvait avoir des agents et que même je ne m'imaginais même pas vivre de ma danse, quoi. Je le faisais et Et voilà, c'est au fur et à mesure du temps, au fil du temps, que les choses se sont concrétisées et j'ai trouvé ma vocation et ouais, j'ai mis plus ou moins tout de côté, quoi, ouais, pour essayer d'exceller au maximum.
Et à cet âge-là, tu vois, tu t'as quoi, t'as 16, 17 ans, t'as un petit espoir d'en vivre. C'est possible d'en vivre. Il y a des gens qui vivent du breakdance ou même de la culture hip-hop en général.
À cette époque-là,
ouais.
À cette époque-là, il y en avait qui commençaient parce que, comment dire aussi, en France, on a cette capacité, opportunité d'être aussi intermittent dans la danse, ouais. et ça commençait, le hip-hop commençait à s'intégrer dans les institutions. On avait des spectacles qui rentraient dans les théâtres. On avait des chorégraphes hip-hop qui commençaient à recruter des danseurs, même des compagnies contemporaines qui recrutaient aussi des danseurs hip-hop. Et au fur et à mesure, entre les plateaux télé qu'on pouvait faire pour des artistes ou les comédies musicales aussi qui commençaient à se développer, les cours qui commençaient à être rémunérés avec justement les créations d'associations, les créations de ta structure et voilà, il y avait de quoi commencer à en vivre. Mais c'était pas tout le monde qui pouvait aussi facilement entre guillemets aussi que maintenant, quoi.
Puis c'était un peu un statut d'artiste où même eux, j'imagine, cherchaient, exploraient ce qu'il était possible de faire, quoi.
Exactement. On n'avait pas le luxe de choisir forcément. Il y avait vraiment ta passion et t'allais au boulot aussi via la danse, mais t'allais au boulot, tu vois. C'est alors que maintenant.
T'as eu un travail, toi, une fois? T'as dû bosser?
Jamais.
C'est
mon travail.
C'est magnifique. Franchement, félicitations. Franchement, félicitations. Et à partir de quand tu commences à gagner un peu d'argent du coup avec la danse?
À partir de 2001, on gagne avec mon équipe Wanted Posse le championnat du monde en Allemagne.
Battle of the Year, c'est ça?
Voilà, le Battle of the Year. On a non seulement gagné, mais on a marqué les esprits parce que au final, on est arrivé comme nous on était arrivé avec une musique différente, un style différent. On a ramené une French touch, comme ils savaient le dire. Et dans mon équipe, on avait une fille qu'on avait intégrée, alors que c'était pas souvent que à cette époque, il y avait pas beaucoup de filles qui excellaient on avait la meilleure. Babyson. Dans le groupe, tout le monde a son nom avec qui finit par son. Son d'une famille, en fait.
Ok.
Voilà. On avait marqué les esprits et les choses ont commencé à faire qu'on a été appelé de plus en plus pour des shows. On avait sorti un DVD produit par TF1 et tout, ce qui fait que ça nous avait fait une bonne communication et on pouvait aussi prétendre à des salaires, un peu plus élevés. On créait aussi notre statut d'intermittent, donc on commençait à nous professionnaliser, quoi.
Ouais. C'est beau, en tout cas c'est inspirant, je trouve, tu vois, comme histoire. Cet événement, ça a été vraiment le tremplin pour vous là sur la scène internationale.
Oui, ça a été le tremplin parce que de là ça a découlé à la création de trois spectacles en théâtre. On avait fait un show. En fait, la compétition Battle of the Year se passait en deux étapes. Il y avait une partie show et une partie demi-finale finale où on était en adversité,
en battle
contre. On est tombé contre les Japonais en finale et le show qu'on a fait, ça a été un show que jusqu'à aujourd'hui les gens ils nous en parlent parce qu'on avait changé le game, quoi. Et ça a été encore plus fort que juste de gagner le titre du meilleur show qu'on n'avait même pas eu, hein. Mais les gens se rappellent de notre show plus que ceux du gagnant au final. Et ça, c'est quelque chose qui m'est souvent arrivé. J'ai pas gagné parce que ma danse n'était peut-être pas assez académique ou je n'avais pas assez travaillé. Mais j'étais celui qui marquait quand même plus ou moins le plus les esprits. La première participation, aussi une autre étape qui m'a fait bien connaître, c'est lors du premier édition du Red Bull BC One, qui est l'équivalent du championnat du monde de 1-1 en break. Et là, c'était la première fois qu'on voyait deux danseurs dans une arène avec des conditions de fou, avec des caméras autour de la scène de partout. La danse était amenée à un autre level. Ma vidéo de ce battle avait atteint les 20 millions de vues à cette époque, était juste fou, quoi. Et voilà, tu tapais B-Boy sur Google, c'était mes vidéos ou mon nom qui apparaissait, quoi. Et c'était, ça m'a permis aussi de voyager à l'international et de démarrer pas mal de projets, quoi.
Ouais. Et tu sens que la France, ça explose aussi. Le breakdance est en train d'exploser aussi à ce moment-là. Parce que, là, tu gagnes du coup l'équivalent des championnats du monde. En équipe, vous gagnez cette compétition-là. Tu fais partie des meilleurs danseurs au monde. Mais est-ce que, je sais pas, en France, on te reconnaît encore dans la rue? Est-ce qu'il y a une certaine notoriété aussi qui se fait, ou c'est uniquement dans la communauté hip-hop?
À cette époque, non. C'est quand même, ça reste dans ce microcosme que les gens ils me reconnaissent et que j'ai un nom. Après 2004, après ce premier Red Bull BC One, ça a touché d'autres personnes que même des gens de la danse, parce que comme je disais, une vidéo qui tournait à 20 millions de vues à l'époque, il y avait pas mal de gens qui m'avaient vu et gens qui avaient rien à voir avec le break, qui passent par se partager mes vidéos, quoi. Et j'ai commencé à être reconnu quand on partait en Allemagne, quand on partait en Suède, en Norvège. Et par contre, par rapport à la France, là où j'ai vraiment eu une reconnaissance nationale vis-à-vis du grand public, ça a été après ma participation à Incroyable Talent.
Je me rends pas compte à quel point ça change une vie.
De gagner un crochet un télécrochet, comment on dit?
Je sais pas, une compétition une compétition à la télé.
Voilà. oui, ça change la vie déjà par rapport à la récompense qu'il y avait. Il y avait le prix était de 150 000 euros à l'époque et c'était vraiment loin d'être négligeable à cette époque. Et ce qui m'a donné aussi une certaine sérénité pour pouvoir continuer à créer et à m'installer dans mon métier, quoi, quand même. Et à côté de ça, oui, cette notoriété que j'ai pu avoir les quelques années qui suivaient, au final, les gens te reconnaissent, t'as l'étiquette aussi vue à la télé, ce qui fait que tu peux aussi prétendre je pouvais prétendre à des salaires plus élevés, je pouvais être appelé parce que les gens justement savaient qui était Junior, quoi.
Et moi je me pose, tu vois, si je te pose un peu la question sur la partie un peu sportive.
Oui.
Est-ce que à quel moment t'as intégré que ton corps c'était ton outil de travail et que il fallait peut-être que tu fasses un peu de la préparation physique ou est-ce que tu fais de la préparation physique ou est-ce que t'en as fait?
Je fais de la préparation physique, on va dire à ma façon, les moments où je vais pas avoir de représentation, de compétition ou autre, je vais toujours essayer de faire mes petits exercices, mais toujours avec le poids du corps. Je vais rarement utiliser des poids autres que voilà. Et c'est juste ce qui est fort aussi dans la danse, dans le breaking, dans la danse en général, je pense, c'est que la danse que tu pratiques va te forger un corps en fait, et le style que j'ai adopté, ben c'est ce qui a forgé aussi mon corps et c'est ce qui me maintient aussi à un certain niveau physique quoi. Et c'est ma danse m'a mise en forme, c'est la danse ma préparation physique au final.
Ok, ouais. Ouais, bah moi c'est ce que je dis souvent aux gens que j'accompagne et que je coach un peu, c'est si t'as envie de progresser dans un sport, faut le pratiquer à son maximum et il y a pas forcément de la préparation physique, c'est un complément quoi.
Ah ça c'est clair, c'est de plus en plus après maintenant. À l'époque, on était plus à voir la danse comme quelque chose de beaucoup plus artistique que athlétique. Et au fur et à mesure du temps, avec l'évolution du mouvement, l'évolution du niveau qui montait de plus en plus, au début, quand tu faisais un 90, c'est le moment où tu tournes sur une main.
Ouais.
Voilà. Et t'en faisais trois tours, tu explosais le cercle. Maintenant, t'as des petites 10 ans, des Russes, Malich, dédicace, qui vont faire 30 tours. Donc, oui, au fur et à mesure, le niveau a monté, Donc, la nécessité à avoir un corps hors du commun, s'imposait quoi. Au final, on devient de plus en plus des machines de guerre quoi en fait, on pousse les limites à chaque fois. Les limites sont poussées. Avant, c'était vraiment plus que le côté ressenti, voilà. Et là, maintenant, faut que quand tu fais tes passages, les passages, ils soient assez longs, ils soient assez, rythmés. C'est pas du tout les mêmes formats, c'est pas du tout les mêmes, c'est encore plus de qualités physiques qui sont demandées pour le niveau par exemple des JO quoi, pour le niveau des Red Bull BC One, pour des grosses compétitions internationales. Maintenant le niveau a monté, alors
physiquement c'est beaucoup plus exigeant. Et tu sais, s'il y a des danseurs justement qui se font accompagner sur la partie physique et préparation physique.
Oui, de plus en plus, il y a de plus en plus de danseurs qui vont avoir un coach, de plus en plus de danseurs qui vont.
Et ils font quoi du coup ?
Ils font quoi du coup ? Là, avec Red Bull par exemple, il y a un espace là où ils vont mesurer toutes tes qualités physiques, ta résistance, l'endurance et tout. Et oui, il va avoir différents exercices à faire pour voir qu'est-ce que t'as à améliorer quoi. Après pour les autres danseurs, je vois pas mal de gens qui font du workout, je vois pas mal de gens qui utilisaient le masque pour et ouais, il y a, alors que ça dans le breaking, dans le hip hop même, il y a 10 ans 15 ans on pensait pas à ça.
Ouais, alors que c'est hyper c'est hyper intense, c'est hyper cardio.
Oui.
Vous êtes, c'est quoi, c'est sur, je me rends pas compte, sur une compétition, c'est quoi, ça dure une minute trente de show, de battle?
Non, sur une compétition, quand c'est un contre un, par exemple, c'est des questions-réponses et chaque passage peut faire 40 secondes voire une minute, mais t'en as plusieurs et t'as plusieurs tours en gros. Des fois il y a des par exemple dans le cadre du Red Bull BC One, c'est trois passages, ça a été trois passages puis cinq passages à la finale, donc et il te faut déjà du vocabulaire, il te faut de la diversité dans tes mouvements, il te faut la condition physique. Et donc on a des athlètes de haut niveau qui arrivent souvent, ça va être les gens qui sont les plus préparés physiquement aussi qui vont réussir à aller jusqu'en haut du tableau et gagner les compétitions.
Ok. Quand tu dis ils ont besoin de vocabulaire,
quand je dis ils ont besoin de vocabulaire, c'est que notre danse est aussi faite de mouvements, de fondations, on a un vocabulaire, on a des bases, on a des power move, on a des footwork, et en gros, si le plus tu vas avoir d'éléments à proposer, le plus tu vas pouvoir répondre à ton adversaire, en gros. Et il y en a qui excellent plus dans un univers, que ça peut être les power move, d'autres sont les footwork, qui sont les mouvements qui sont plus, on appelait ça des passe-passe, parce que t'as l'impression que tu fais des tours de magie avec tes jambes, et c'est quelque chose qui va nécessiter plus d'organisation, plus de rythme et tout, alors que d'autres vont utiliser plus la force, plus l'explosivité.
Ouais. Il y a des noms pour les grands styles dans le breakdance. Oui. C'est quoi, c'est quoi les grands styles qui existent dans le breakdance?
Dans le breakdance, les grands styles, il y a, en fait, un passage de danse peut être décomposé comme entrée, plat, dessert et okay. Si tu veux un café. En gros, c'est l'entrée, c'est tu vas faire ce qu'on appelle les top rock. Top rock, c'est tu vas danser debout et ça va montrer aussi ton style, c'est va montrer aussi ta personnalité, ça va montrer ton rythme, ton rapport à la musique et tu fais ça avant d'aller au sol.
Ouais.
D'accord, c'est un peu dire voilà, là je vais te parler. Et après tu commences avec ce qu'on appelle souvent les footwork, il y a cette partie, c'est justement c'est tout ce qui est jeu de jambes en fait au sol, et il y a la base que tout le monde va connaître, ça va être le six step. C'est tu fais six pas, six temps avec voilà. Et à côté de ça, il y a on ponctue souvent nos passe-passe, nos footwork avec des freezes, ou bien nos passages avec des freezes. Des freezes, c'est des mouvements, des positions bloquées que tu dois maîtriser, que tu dois contrôler.
Sur les mains, ou
ça peut être sur les jambes, mais c'est une posture où, si on prend en photo, tu peux même la mettre en profil, tu vois, pour que ça soit des belles postures.
Okay.
En gros, c'est nos points, nos virgules. Et les power moves, c'est, on va dire, c'est les parties explosives.
C'est quoi, aériennes. C'est le dessert?
Voilà, ça, c'est dessert ou plat de résistance, je vais dire, et c'est parce que c'est assez consistant et t'envoies du lourd, quoi. C'est ça qu'on dit, c'est des mouvements aériens vraiment plus acrobatiques, et c'est souvent ceux-là aussi qui sont qui déterminent aussi le travail que t'as mis dans physiquement pour pousser les limites, quoi, en gros. Et voilà, normalement on le finit souvent sur le freeze, mais des fois il peut avoir des freezes, des ponctuations à l'intérieur de tous ces mouvements. Donc on a des footworkers, des power movers, et on a des top rockers.
D'accord. OK.
Et donc le top rock, c'est
c'est ceux qui vont c'est les mouvements qui vont être très énergétiques avec beaucoup de figures impressionnantes.
Non, ça c'est les power moves. Les top rock, c'est le top rock, tu danses debout.
Ah,
en
c'est
fait.
OK, c'est l'entrée,
juste,
c'est l'entrée.
Voilà, c'est juste l'entrée et qui va dire qui t'es aussi, parce que.
Et du coup toi t'es quoi?
Moi je suis plus un power mover, on va dire. Un power mover, et ma force, c'est que, on va dire, ce que je cherche, c'est mettre ma technique aussi au profit de la musique, ce qui fait que je vais faire des mouvements qui sont acrobatiques, mais j'essaie de leur donner une âme, de leur donner du sens par rapport aussi à ce que la musique va apporter, par rapport au moment, par rapport à ce que l'adversaire va donner, et c'est réussir à faire vivre des mouvements juste techniques, en fait.
OK. Et du coup, est-ce qu'il y a des...
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Des musiques ou des styles de musique que tu vas préférer parce qu'ils vont plus mettre en avant ton style de danse. Tu vois ce que je veux dire?
Oui. En fait, à la base, on dansait souvent sur les breakbeats.
Ouais.
On dit que le terme B-boy, c'est break boy en fait. C'était le moment où il y avait le break dans la musique, et c'était la partie où il y avait que de l'instrumental, et c'était souvent là que le danseur, le breaker pouvait entrer et montrer ce qu'il savait faire, quoi. Et comment dire, ben après, avec l'évolution, ben on a su danser sur des musiques funk, on a su danser sur des musiques qui étaient même hip-hop, plus hip-hop underground, on va dire. C'était plus les rappeurs, on dansait sur les lyrics des rappeurs, et maintenant il y a même sur des musiques qui vont être un peu plus drum, et moi je me dirais que je suis un DTT, danseur tout terrain. Chaque musique va m'apporter une différente inspiration, une différente manière d'aborder le mouvement, et je suis assez, comment dire, hétéroclite dans le sens où je vais vraiment aimer chaque musique, à partir du moment où elle me fait vibrer, ben voilà, ouais. Ben je vibre.
Mais c'est ça qui est super beau, je trouve, avec le break et même le hip-hop en général. C'est comme c'est une culture qui est underground, tu vois, et qui s'est construite un peu avec des codes, mais il n'y a pas forcément eu des règles, tu vois, qui ont été mises sur la danse, comme d'autres danses où c'est beaucoup plus codifié, tu vois. Bah vous arrivez à trouver des sources d'inspiration de tout. Exactement. Et je regardais des jeunes avec des touches cubaines, de salsa. Il y a aussi des japonais qui sont super forts, qui amènent une touche asiatique dans leur danse. Et je trouve ça apporte énormément de beauté, quoi. Je trouve d'avoir ce paysage culturel qui vient du monde entier, quoi. En fait, votre source d'inspiration, elle est
notre source d'inspiration est large, et là où on emmène aussi, c'est large, dans le sens où chacun, en fait, dans la culture, on va plus célébrer la différence que l'inverse. On va essayer de faire en sorte d'apporter, et c'est ça qui fait grandir notre discipline, notre culture, notre art, notre sport, c'est le fait que chacun puisse intégrer son histoire, sa propre histoire, à l'histoire commune de la culture. Et en fait, chacun apporte sa pierre à l'édifice, et voilà ce qui fait que ça donne quelque chose de plus grand, de plus il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, en fait. Et on a des bases et on est libre de les déplacer, en fait. À partir du moment où on parle le même langage, à partir du moment où on arrive à se comprendre même, c'est l'essentiel. Mais chacun a la possibilité, la liberté de parler avec son propre accent, en fait.
Ok. Et tu penses qu'il y a encore beaucoup de terrains d'exploration qui peuvent être faits? Parce que vous avez... Enfin, il y a eu tellement de nouvelles choses déjà. Est-ce que toi, après, ça fait quoi? Ça fait plus de 25 ans que tu pratiques. Est-ce que tu arrives toujours à explorer, à créer des nouvelles choses?
Bien sûr. Le corps humain est tellement, étonnant. Il y a des choses que, fallait juste y penser et se dire c'est possible. Et au final, tu te rends compte qu'il y a pas mal de choses qui sont possibles et on les voyait impossibles, en fait. Et et les mouvements sont tellement variables que il y a toujours quelque chose à innover, à inventer, à recréer. Et moi, c'est ce qui me donne aussi cette longévité, c'est que je sais que j'ai encore pas mal de choses à apprendre, et tant que mon corps me le permettra, ben j'essaierai de les apprendre, j'essaierai de m'améliorer
T'arrives encore à progresser?
J'arrive encore à progresser, oui.
Okay. Et sur quelle partie?
Sur comment maîtriser ma danse, comment maîtriser mon style et devenir vraiment maître de mes mouvements, et c'est une intelligence d'écriture, on va dire. Ça va être tellement, je vais maîtriser les mouvements, je vais savoir quel va venir avec après l'autre, même que ce soit en freestyle ou en écriture, je vais pouvoir plus visualiser des enchaînements, ouais. Je vais pouvoir les rendre plus clean, plus propre, plus incisif, et voilà, c'est vraiment la maîtrise qui s'apprend en fait.
Ouais. Ok, ouais, je vois de quoi tu parles.
Parce que ouais, il y a des mouvements. Après là, j'ai encore la chance, je touche du bois, de pouvoir faire les mouvements que je faisais il y a 20 ans, mais voilà, je sais que maintenant je sais comment j'ai su aussi comment dire me remettre en question en essayant d'aller en dehors de mes zones de confort et d'essayer d'apprendre des choses que je ne pensais pas possible de faire, et au final j'ai réussi à les faire à ma façon, et ce qui a donné encore plus mon style, quoi, et qui a encore voilà, je dis souvent ma danse c'est comme la tarte tatin. À la base je voulais faire une tarte aux pommes, mais au final ça fait une tarte tatin et c'est pas plus mauvais. C'est aussi sucré.
Ok, je garderai la métaphore, elle est bien. Et tu sais un peu comment t'as ce processus créatif? Si tu devais apprendre à un jeune qui connaît pas grand chose à la danse de créer sa propre danse, par où il faudrait qu'il, comment est-ce qu'il faudrait s'y prendre, comment est-ce qu'il, ce serait quoi les conseils à donner?
Les conseils à donner, ça serait déjà de s'écouter, de d'essayer de se donner du temps aussi, parce que nous à notre époque, voilà, encore on n'avait pas toutes ces informations qui pouvaient polluer notre créativité, en fait. Ouais. Le fait de t'isoler, d'essayer de faire ce que ton corps t'envoie comme ce que, ouais, de faire selon ce que ton corps te permet, et de voir où tu peux aller, où tu peux l'envoyer pour te dépasser, bah c'est quelque chose qui demande du temps, c'est quelque chose qui demande de te retrouver, c'est quelque chose qui demande d'aller puiser dans ta propre histoire, quoi, en fait, dans ton histoire. Et aussi avoir le maximum de bases, c'est toutes ces bases qui vont faire que t'as une, comment dire, ouais, une base de données que tu vas pouvoir transformer avec ton flow, ton propre ton corps, quoi. Ouais.
Ben, j'ai l'impression que comme vous, la part de créativité est super importante, parce que avant une compétition ou avant un show, bah vous devez créer votre danse, l'écrire, l'essayer, la répéter. Comme la part de créativité est hyper importante et que votre source d'inspiration était, enfin, il y avait beaucoup moins de codes, vous avez essayé plein de choses, en fait, vous avez expérimenté par vous-même plein de choses, alors que maintenant, peut-être un jeune, il peut plus facilement copier, entre guillemets, sans avoir cette part créative.
C'est exactement ça. Et tout ce qui prend du temps aussi à être créé, à plus de saveur, à plus de force, à plus d'authenticité, et plus de, ben, ça fait que ta danse, ben, il y a de la personnalité. Et les danseurs qui, pour moi, arrivent à durer, à se faire remarquer, à sortir du lot, c'est des danseurs qui vont réussir à, qu'on va pouvoir reconnaître si on voit juste leur ombre danser. C'est une manière de, c'est un toucher qui va leur être propre, c'est une dynamique, des postures, des une calligraphie qui va leur être propre, quoi.
Ok.
Pour pas parler de chorégraphie, mais là c'est vraiment, oui, c'est leur écriture qui va leur être vraiment propre. Oui.
Ouais. T'as parlé tout à l'heure de rapport au corps et d'écouter son corps, ce que le corps t'envoie. Est-ce que tu penses que, tu vois, du fait de ta maladie, ça a développé une sensibilité supérieure? Parce que tu vois, vraiment, bon là j'encourage vraiment les auditeurs à les, qui te connaissent pas, en tout cas pas encore, vraiment aller regarder tes vidéos, aller sur YouTube, taper B-Boy Junior, vous allez voir, c'est unique. Et moi, un des trucs qui m'a marqué aussi, c'est quand les gens parlent de toi et disent que ton style, il est unique. On pourrait te mettre sur un autre corps, on reconnaîtrait quand même la danse de Junior, tu vois. Et je me demande, tu vois, si peut-être que tu vois, est-ce que ton parcours, ton histoire fait que t'es peut-être un peu plus à l'écoute des autres? Enfin, je sais pas si ma question elle est un peu compliquée parce que c'est difficile de ressentir ce que les autres ressentent, mais est-ce que ta maladie ça a fait en sorte que ça a développé en fait cette sensibilité à et l'écoute de ton corps?
Oui, ça a été une manière aussi de, en fait, je dis souvent ma danse transpire mon histoire parce que c'est exactement ça, c'est mon histoire qui a construit ma danse et aussi au final ma danse est devenue mon histoire, et ce qui fait que ben la frustration que je pouvais avoir, que je peux avoir de ne pas pouvoir faire certaines choses, ben ça m'a fait développer d'autres choses. Quand on parle aussi de sensibilité par rapport aux autres, ben ouais, j'ai toujours eu aussi cette envie de me surpasser pour montrer que ouais, je peux faire des choses, je peux prouver, je peux fermer des gueules. et ouais, c'est et aussi ça permet aussi de garder les pieds sur terre et de me dire que ouais, j'ai certes certaines lacunes, ben voilà, ben je vais essayer de les surpasser ou bien d'en jouer. Et ouais, au final, même la faiblesse que j'ai dans la jambe, eh ben je vais l'utiliser pour faire des envolées, je vais l'utiliser pour aller chercher des mouvements que d'autres personnes qui auraient un poids en plus n'irait pas chercher, et au final en les cherchant, ben certaines personnes valides, ben elles se trouvent aussi motivées, c'est fort aussi que tu boostes des gens valides à faire des choses qu'ils auraient dû penser à faire avec leur corps avec la chance qu'ils avaient.
OK. Et tu sais, dans le sport, des fois on va dire dans les sports un peu plus
académiques,
conventionnels et tout, il y a des fois il y a quand même beaucoup d'ego, tu vois. Les athlètes de haut niveau sont des gens qui veulent être champions, ils veulent gagner, tu vois. Et je me demandais si tu vois, dans le break, vu que il y a aussi une grosse part un peu créative où vous pouvez monter des spectacles. Il y a pas que les compétitions, en fait.
Oui, voilà.
Tu vois, tu peux participer, tu peux faire des workshops. Tu vois, Cristiano Ronaldo, il va pas donner des cours de foot, tu vois.
Oui. Ouais.
Mais il peut gagner sa vie de plein de manières. Mais est-ce que du coup dans les compétitions, il y a pareil, il y a cet ego, cette volonté de gagner aussi qui est là.
Ah mais bien sûr. Bien sûr, elle y est, mais là où c'est moins, comment dire, virulent ou bien comment, si je peux dire, martial, ben c'est c'est ce côté artistique qui est aussi prôné. Il y en a qui vont, ben j'ai été pas mal de fois le cas où je vais arriver dans un battle, je vais aller jusqu'en demi-finale voire finale et ne pas le gagner forcément, mais j'en ressors quand même gagnant parce que les gens se sont rappelés de moi, les gens se rappellent de moi, j'ai marqué les esprits, et c'est ça qui est fort aussi, c'est que t'as pas besoin du résultat pour t'estimer vainqueur de chaque expérience de compétition ou autre, en fait. T'as pas besoin que de ça. Et alors que dans les sports académiques, c'est le résultat qui va compter, c'est la voilà. Et ouais, je sais pas, même si t'as fait des dribbles de fou, si tu perds 1-0, bah tu perds 1-0. Je sais pas, les gens ils vont pas dire, on va l'inviter, ou bien il va. Je sais pas, non, il y a ce côté artistique qui aide aussi à pallier à l'adversité ou à cette envie à cette nécessité de gagner.
Ouais. Mais ce que je vois beaucoup dans les sports olympiques et tout, c'est que les sports de jugement, ça mène à beaucoup d'injustice. Je te donne un exemple très concret, tu vois. Par exemple, j'ai interviewé Laura Auger, qui est une nageuse synchronisée.
D'accord.
Donc elle a fait ça pendant 10 ans, elle a été au top niveau, championne de France, je crois que championne d'Europe aussi. Et en fait, elle m'a dit un moment, elle m'a dit, je pourrais jamais être championne du monde ou championne olympique. Parce qu'en fait, j'ai, mes jambes correspondaient pas aux critères de la natation synchronisée.
Ah bon, ouais.
Parce que il faut avoir des jambes très fines, d'une longue taille, avec des pieds un peu, pour que ça soit plus joli, tu vois, j'imagine, pour les juges. Et du coup, elle m'a dit, bah, c'est un sport un peu ingrat, entre guillemets, parce que je pourrais jamais être championne. Et du coup, je lui ai dit que c'est vraiment, enfin, je trouvais ça très injuste. Et elle me disait que, bah, dans tous les sports de jugement, il y avait beaucoup d'injustice.
Ouais. Après, c'est clair, hein, et vu que ça reste subjectif, il peut y avoir de l'injustice. Mais justement, ça, c'est aussi une de mes sources de motivation, parce que je me dis que bah, pour gagner une compétition ou battre quelqu'un qui va être plus académique, qui répond plus aux canons, aux critères et tout ça, bah, je vais devoir faire double travail, quoi, en fait. Ouais. Et voilà, et il y en a qui partent avec cette détermination de faire encore plus, qui doivent faire plus que ce qui devrait, que la moyenne pour atteindre le résultat. Et ben, faisons-le. Si tu dois faire plus, ben, fais plus. Et l'exemple de Laura, c'est ça.
Ouais.
Et ben, ça se trouve, si elle atteint un niveau encore plus fort ou plus truc, et ben, ça ferme des bouches.
Ouais,
et peu importe, tu peux pas nier. Voilà.
Ouais. Ben, c'est peut-être la différence, c'est peut-être que la natation synchronisée, c'est un peu trop de code, quoi, un peu trop de règles, trop de, là où vous avez quand même beaucoup d'expression, de liberté, quoi. Mais ok, c'est hyper intéressant. Et il y a des codes techniques, des codes de règles justement pour les juges, parce que toi t'as été juge de plusieurs compétitions aussi.
Oui, je suis
du coup, comment tu fais pour juger deux gars qui sont en train de danser, comment tu fais pour choisir le gagnant, quoi?
Nous avons pas mal de critères de jugement qui vont être...
Vous avez une grille, on vous file un papier avec une grille et...
Il y a des battles où ça se passe comme ça. Il y a des battles où chacun, même chaque juge s'occupe d'un des critères de jugement. Par exemple, un tel juge va s'occuper de tout ce qui est fondation, tout ce qui est base, comment tu... Il y en a un autre qui va s'occuper de l'exécution, la qualité d'exécution, la dynamique que tu mets. Il y en a d'autres qui vont s'occuper de l'originalité, l'interprétation. Il y a, comment dire... La condition physique, donc il y a plein de critères qui vont faire que celui qui va réunir le plus ou bien exceller dans un de ces critères et faire la différence par rapport à son adversaire. Et oui, on a, comment dire, des mouvements qui vont être une personne qui va répondre aussi qui va répondre à ce que l'adversaire a fait, et en le faisant mieux, en tournant peut-être plus, en étant plus propre, plus aligné, on va voir une différence aussi, de maîtrise entre les deux écoles, entre les deux danseurs, quoi.
Ouais. OK.
Donc, on va dire les critères de base, c'est musicalité.
OK.
C'est parce que c'est de la danse, ça reste de la danse, donc on va voir ton rapport à la musique, il va avoir les fondations, les bases que tu vas avoir.
OK.
Il va avoir
Quand tu dis fondation, c'est la qualité des mouvements basiques, c'est...
Ouais, c'est la bibliothèque de mouvements que tu vas avoir, en fait, de base. On a pas mal de mouvements de fondation, que ce soit en footwork, que ce soit en top rock, que ce soit en power move.
Ouais, donc faut montrer la variété.
Réussir à montrer la variété et comment tu la maîtrises, ton toucher. Le toucher va être important, et il y a, comment dire, l'interprétation et comment tu vas surenchérir sur l'adversaire, qui va être important aussi, parce que c'est une conversation, en gros, chacun apporte ses arguments, on va voir qui va avoir les arguments les plus décisifs et les plus efficaces, quoi.
OK. Il y a d'autres critères?
Je t'ai dit quoi, musicalité, fondation. Originalité, on va dire qualité d'exécution.
Okay.
Ouais, et
Il y a rien sur la puissance, par exemple.
Bah, on va dire, ça fait partie de la qualité d'exécution aussi, et ou autrement, bah, dans cette idée-là, on part sur la prouesse physique, quoi, la performance physique, où tu emmènes le mouvement, jusqu'où tu l'emmènes. Quelqu'un qui va faire, par exemple, ce que je parlais de tout à l'heure, un IT, quelqu'un qui va faire deux tours, et un autre qui arrive à en faire une vingtaine, bon, bah, tu sais déjà qui est-ce qui a réussi.
Ça va. Ok, d'accord, ok. Hyper intéressant. Et toi, dans tout ça, la partie compétition, c'est quelque chose qui t'attire? Ou c'est plutôt la partie créative qui va t'intéresser?
Je trouve que jusqu'à présent ça a été complémentaire en fait, et chaque environnement enrichit l'autre en fait. J'ai réussi à m'enrichir de mon expérience de battle pour nourrir ma créativité dans les spectacles et pour apporter du mouvement, de la fraîcheur dans mes différentes propositions scéniques, quoi. Et l'inverse, pareil, la qualité d'interprétation, l'énergie qui va être peut-être des fois plus douce que je vais avoir en spectacle, si j'arrive à la mettre dans le battle, par exemple, ça relève encore plus la dynamique ou l'agressivité que je peux avoir. En gros, réussir à varier les énergies, les forces qui sont nécessaires pour un domaine et les apporter dans l'autre aussi, quoi.
Okay.
Et vice versa.
Okay. Ok, trop cool, trop cool. Et ouais, aujourd'hui, après une carrière super longue, c'est quoi les projets actuels, les projets futurs, c'est quoi tes nouveaux challenges, en fait, tu vois?
Mes nouveaux challenges, je continue pas mal dans la transmission et mon but, c'est d'avoir un lieu à moi et dire, ou pas forcément moi qui donne les cours tout le temps, mais en gros à réussir à avoir des intervenants de qualité qui puissent apprendre aussi aux nouveaux champions, aux futurs champions de demain, quoi. Et à côté de ça, je me suis mis dans le théâtre aussi.
Okay.
Voilà, ce qui fait que là, je suis dans la prochaine pièce de Julie Berès qui s'appellera La Tendresse, qui s'appelle déjà La Tendresse. Ouais. Là, nous sommes dans notre dernière ligne droite de création et on a notre première le 16 novembre à Reims. On fait presque 80 dates de prévues pour.
Passer à Paris.
On va passer à Paris, notamment à la Villette, aux Bouffes du Nord et. Ouais.
Trop cool. C'est à partir de quand, du coup?
À partir du 16 novembre, là, on a notre première à Reims. Mais à Paris, je t'enverrai tout ça.
Non, mais t'inquiète. J'irai regarder par moi-même. Mais ouais, j'irai te voir et je pense que les auditeurs, ça leur donnera envie d'aller voir.
Faut venir voir. Du 23 au 27, on est à Dijon.
Je vous dis tout.
Maubeuge le 4 janvier. On est arrivé.
Non, mais t'inquiète.
On est à Cergy du 26 au 27, je lâche pas. On est à Toulouse du 4 au 7 février.
Ok.
Voilà. Bon, d'ici là, il y en aura d'autres. Et sur Paris, faut que je trouve au moins Paris, les autres de Paris.
Vas-y. Donc là, Junior. Mais
sinon, si t'as d'autres questions,
il est chaud. Il sait que c'est le moment.
Faut venir parce que ce spectacle, il me tient à cœur vraiment.
C'est vrai. Dès que t'es arrivé, tu m'en as parlé. Tu m'as dit là, on est au taquet, on révise énormément et tout. Moi, j'avais une question que je voulais te poser justement, vu que là tu cites toutes ces villes. J'ai entendu que tu avais fait plus de 80 pays.
Oui.
Tu bouges tout le temps, tu as visité la moitié de la planète, quoi, tu vois.
Pas encore. J'ai mon collègue justement, le Brésilien Neguin, il est à 136, donc je suis loin.
C'est pas crevant d'être toujours à droite à gauche, de bouger partout comme ça et tout, c'est, mais en même temps c'est un kiff quoi. Moi,
exactement.
Je me dis, je me dis t'as tellement de chance, je rêverais d'être à ta place quoi.
C'est crevant, c'est clair, mais c'est une bonne fatigue, c'est une belle fatigue et au final j'en suis content et au final c'est une habitude que tu prends et, ouais. Et je me retrouve à rester 10 jours à la maison, je me dis bon bah qu'est-ce qui se passe là. En gros, il va toujours bah j'ai besoin de ce
ouais, vous bougez, tu bouges le temps en fait.
Ouais, j'ai besoin de cette mobilité et le fait aussi de voir différentes personnes, différents pays, différents horizons, ça nous requinque quoi au final et on la sent pas la fatigue.
Okay.
On la sent pas la fatigue.
OK, c'est dingue.
Tendresse toujours TGP de Saint-Denis du 21 au 20 au 30 mars même.
Allez.
Voilà. On continue. À Rennes, le 4 et 5 avril.
J'ai beaucoup d'auditeurs à Paris. Si jamais tu retrouves les dates de Paris, ça m'intéresse.
Ça va venir.
Mais moi, je viendrai, en tout cas. Moi, tu as ma parole, je serai là. Je vais me mettre au premier rang et je vais faire Junior. Souviens-toi, rien, je prendrai des stories. Et ouais, il y a d'autres projets sinon sur lesquels tu t'engages. Je sais pas, vis-à-vis de, tu me parlais aussi de ce que tu es en train de faire là avec le Congo, parce que t'as une histoire particulière. Tu as été un peu déraciné quand t'étais jeune.
Oui.
Est-ce que t'as d'autres projets justement tournés vers ça?
Avec des danseurs congolais, nous avons monté notre association qui s'appelle Projet Congo, qui est.
C'est que des breakers.
C'est des danseurs. Non, c'est pas que des breakers. Il y a des danseurs, ce qu'on appelle des danseurs debout.
Ok. Ouais,
voilà. Et non, on a monté ce projet qui est de réunir nos forces et de renouer aussi avec nos racines. Tout en n'étant pas dans le communautarisme, parce que comme on se dit, une de nos valeurs c'est ce combat est le nôtre, mais acceptons l'aide des autres, parce que il y a des gens qui vont être amoureux de l'Afrique, qui vont avoir une belle image de l'Afrique et qui vont vouloir développer les choses aussi en Afrique et qui sont pas forcément africains ou congolais ou voilà, et bah toute cette aide, toute cette positivité, on la prend. Et notre but c'est d'aider des structures déjà existantes qui œuvrent pour soit des orphelinats, soit des enfants qui sont en prison, soit des enfants de la rue, soit même des femmes qui ont été victimes de sévices. Et voilà, et avec et tout ça via l'art, la culture, et on essaie d'apporter du soutien, que ce soit matériel ou physique, ou bien de connaissances et ou de visibilité en fait à ces structures qui œuvrent déjà là-bas.
Ok. Bon bah trop cool, ça a l'air c'est hyper bien, tu vois, de s'engager, de trouver un peu du sens à ce que tu fais et de redonner, tu vois, de redonner.
Exactement.
Aussi à ce que la chance a donné, ouais.
Exactement, tout justement pourquoi c'est parti aussi à la base de juste de danseurs. Après ça, c'est notre système de communication. Notre système de communication est déjà d'interpeller les gens qui sont proches de notre cercle. Et au fin, par contre, notre système d'admission, il est beaucoup plus large. Ça veut dire chaque personne qui va vouloir nous apporter de l'aide, elle est la bienvenue. Et après, on commençait par les danseurs, après les artistes congolais, après les artistes africains, et après, tout amoureux de l'Afrique, quoi, au final. Et on est dans un système aussi où on essaye de mettre la main à la pâte, de que chaque membre mette la main à la pâte. On est sur un système de autofinancement, dans le sens où on va créer des produits dérivés qu'on va vendre et qu'on va envoyer les bénéfices pour aider ces structures pour différentes actions qui sont en cours et qui sont à l'avenir aussi pensé et envisageable.
Ouais.
Et on va voir aussi, chacun apporte une cotisation en fait mensuelle et chaque membre donne ce qu'il veut, mais avec un minimum de 10 balles.
Ouais.
Et ce qui fait que ça nous permet de nourrir notre
le ça permet de nourrir votre communauté, votre vos projets
oui, voilà, okay. Voilà,
d'alimenter
voilà. D'alimenter toutes nos actions, voilà.
OK. Trop cool. Bah écoute, ouais, on a passé on a fait toutes les questions que j'avais à te poser. Je suis passé en revue. Là pour la fin, j'ai des petites questions que je pose à tous les invités. C'est un peu des questions où tu peux répondre du tac au tac.
Ouais.
La toute première, c'est de savoir c'est quoi une bonne journée pour toi?
C'est quand j'ai réussi à glisser toutes les dates de la tendresse qui, normalement, du 4 au 7 mai, on est à Paris.
Ah,
du 4 au 7 mai.
Bon, bah, c'est noté. 4 au 7 mai à Paris.
Et du 10 au 15. Et du 17 au 22. Voilà.
Ah, 10, 15 et 17 au 22.
Une bonne journée, c'est une journée qui aura été créative, une journée où j'aurais pu... Comment dire, relever un challenge, une journée où j'aurais pu avoir des je t'aime de mes enfants, ouais. De ma femme. C'est oui, c'est une journée où j'ai pu, comment dire, m'améliorer par rapport à la journée d'avant aussi.
Ok, ok, trop chouette. T'as un pire souvenir de danse?
Un pire souvenir de danse? Oui. Pour moi, c'est j'avais fait un battle exhibition contre un Coréen à Marseille.
Ok.
Et j'avais pas dormi la veille.
Okay.
Et je suis arrivé, je me suis fait exploser.
Okay.
Je m'étais fait exploser, je pense. Il y a des gens qui disaient non, t'as bien dansé et tout, mais j'aurais pu faire beaucoup mieux. Et ça a été un battle qui avait été vu pas mal de fois. Et à chaque fois que je le vois, je me dis oh, j'en suis un peu dégoûté. Ouais, ça va être celui-là, mon pire souvenir.
Ok, ça roule. Et c'est quoi ton meilleur souvenir?
Mon meilleur souvenir, c'est
en tant que danseur,
c'est quand on se retrouve à gagner le championnat du monde justement avec Wanted Posse et c'est la première fois qu'on participe à ces championnats du monde et on en part victorieux.
T'es un gros compétiteur en fait, t'aimes bien la compète.
Ouais. Et bah même le c'est une manière de me dépasser en fait, c'est une manière de me dépasser dans tout ce que je vais entreprendre. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même et même plus.
OK, trop stylé. T'as un gris-gris ou un porte-bonheur?
Non, j'ai pas vraiment de gris-gris ni de porte-bonheur, on va dire. Non.
pas un outil, enfin pas un truc
rituel,
que tu prends, ouais, un rituel, un truc que tu fais avant de monter sur scène ou...
Non, on va dire ouais. Je me dis toujours quand c'est quelque chose qui peut m'apporter du trac ou un petit stress, je me dis c'est que de la danse au final. Il y a des choses beaucoup plus graves qui se passent et vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, c'est fais-toi plaisir aussi.
Fais-toi plaisir. C'est ton mantra.
Ouais.
Ok. Il y a eu une personne qui t'a inspiré plus que les autres dans danse ou en sport, qui t'a vraiment inspiré?
Ouais, à l'époque, on va dire que c'était quand même Michael Jackson. C'est clair. Okay. Que ça a été... C'était lui, notre rêve américain.
Ouais.
J'ai eu, oui, sportifs comme Mohamed Ali, mais aussi Muggsy Bogues. Je sais pas si tu as connu. C'était un joueur de basketball qui faisait à peine 1m60 qui joue en NBA dans les Charlotte Hornets.
Ah, ok. Voilà. Je crois que je vois. Et qui a joué contre Michael Jordan et qui
oui,
l'a fait
voilà,
douter.
Ouais. C'est des personnalités comme ça qui m'ont boosté et notamment aussi Jamel Debbouze à l'époque, j'ai collaboré aussi avec lui. C'est Et aussi, bah, sinon, tous mes grands frères de mon groupe, Wanted Posse, qui m'ont aussi, comment dire, beaucoup inspiré, qui ont cru en moi. Bah, mes deux premiers professeurs aussi, Jeff Rudy, qui m'ont beaucoup, boosté, qui m'ont même dit, mais tu pourrais en vivre.
C'est vrai. Ouais. C'est eux qui te l'ont dit. Ouais. C'est beau. C'est trop beau. Est-ce qu'il y a un autre sport que t'aurais aimé pratiquer à très haut niveau?
Ouais, j'aurais bien aimé faire des sports de combat.
C'est vrai?
Ouais.
Ok.
Des sports de combat.
Il y en a un en particulier ou?
La boxe, le sport noble.
Ok, ok, ok. Et tu te vois comment dans 10 ans?
Je me vois... J'espère me voir toujours heureux.
Ok. Et si tu avais une boule de cristal et que tu pouvais avoir une info sur toi dans 10 ans, qu'est-ce que tu voudrais savoir?
Rien à voir avec mon sport. Rien à voir avec mon sport, c'est...
Tu peux choisir ce que tu veux.
Comment vont mes enfants?
C'est beau, c'est beau. Ils ont quel âge, là?
Mon fiston, il a 2 ans et ma fille, elle a 5.
Ok, bon, bah, on les embrasse. Ils s'appellent comment?
Aria et Aaron.
Aria et Aaron. Bon, bah, on embrasse Aria et Aaron. Et on leur fera écouter ce podcast-là dans 10 ans.
Ouais.
Pour qu'ils soient fiers de leur papa, ouais. Y a des choses qui te font peur dans la vie?
Ouais, c'est dommage, hein, mais j'ai peur de l'échec.
C'est vrai?
Ouais. J'ai peur de l'échec et de ne pas avoir donné assez, en fait.
Ok, pourquoi?
Bah parce que, on va dire, j'ai peur de l'échec si je n'ai pas donné assez, parce que ça me donne du regret.
Et il y a des fois dans ta vie où ça t'a porté préjudice d'avoir peur de...
Oui, bah, y a des choses que je n'ai pas fait dans le doute, dans l'hésitation et...
Un exemple?
Et il y a des choses que je me suis rendu compte que ben, des fois l'hésitation ou la peur, eh ben, c'était. Si j'avais écouté ma peur, mon hésitation, il y a des choses que je n'aurais pas faites et au final je me suis rendu compte que la vie pouvait nous réserver de belles surprises une fois qu'on commence à mettre le pied à l'étrier en fait.
Bien sûr. Ouais, ouais, on a toujours. Il y a toujours des regrets quand on subit une peur, quoi.
Ouais.
Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Si tu devais donner un conseil à un jeune garçon, là, qui vient de voir, qui a 10 ans et qui te dit, B-boy, j'ai envie de devenir, boy junior, j'ai envie de devenir, champion du monde de danse dans 10 ans, quel conseil tu lui dirais?
Je lui dirais, prends le temps pour encore plus savourer ce résultat que tu vas atteindre.
Ok, ça marche, ça roule. Et une autre question que j'ai, c'est est-ce qu'il y a un truc qu'on te répète tout le temps et qui te saoule?
Ouais, c'est tu t'es blessé. Les gens ils me voient danser, ils se disent mais il peut pas avoir, mais il me demande, ouais, tu t'es blessé.
Ok. Et la toute dernière question, c'est pas un passage de flambeau olympique, c'est un passage de micro. Okay. Mais c'est d'avoir, quel est le prochain danseur, la prochaine danseuse, le prochain athlète, la prochaine sportive, que tu me recommandes d'aller interviewer, sur un format un peu comme ça, où on peut parler de tout, de rien, d'inspiration. Qu'est-ce que tu me recommandes d'aller interviewer?
Un sportif, forcément, ouais. Okay.
Ou un petit lien avec le sport, tu vois.
Ouais, ouais,
et
ouais.
L'activité physique. Mais là-dedans, je prends. Hein. Je connais pas grand. Je connais pas très bien le break, donc si t'as d'autres noms francophones, je prends.
Ouais, je dirais B-Boy Meno.
Ok.
Ouais.
Pourquoi lui?
Parce que c'est un artiste qui c'est un athlète aussi.
Un athlète.
Ouais. Un athlète. Il est passionné de l'art et on le voit dans sa danse. Et il a été 3 fois champion du monde du Red Bull BC One, et tout en étant différent des autres.
Ok, 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 ça marche. Bah écoute, merci, je le connais pas du tout, donc je vais aller me renseigner. Et je suis sûr que venant de toi, c'est une bonne recommandation. Merci infiniment, Junior, je me suis régalé.
Merci à toi et bonne continuation. J'espère qu'on se reverra.
Bien sûr, on se reverra. Ciao, à bientôt.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao !